Chapitre 4. Scène extraordinaire entre Sophie et sa tante. La génisse mugissante et la brebis bêlante peuvent, avec le reste du troupeau, errer dans les pâturages sans courir aucun danger et même sans être remarquées. Il est vrai qu'elles sont condamnées à devenir par la suite la proie de l'homme. Cependant, on leur permet de jouir, du moins pendant quelque temps, d'une liberté sans trouble. Mais si l'on découvre une jolie biche qui s'est échappée du sein de la forêt pour venir se reposer dans quelque champ ou dans quelque bosquet, tout le village est aussitôt en alarme. Chacun se prépare à lâcher ses chiens sur elle, et si le bon seigneur du lieu parvient à la leur arracher, ce n'est que pour se l'assurer sans partage et la manger lui-même. J'ai souvent remarqué qu'une jeune personne très jolie, ayant de la fortune et de la naissance, lorsqu'on la rencontre pour la première fois hors des limites du lieu qu'il a vu naître, est à peu près dans la même situation que cette biche. La ville est aussitôt en rumeur. Elle est poursuivie des promenades à la Comédie, de la cour dans les assemblées, des assemblées jusque dans sa propre chambre, et échappe rarement pendant une seule saison à la gueule de ses ennemis, prêts à la dévorer. Car si ses amis la protègent contre la férocité d'un de ces animaux carnassiers, ce n'est que pour la livrer à un autre de leur propre choix, qui lui est souvent plus désagréable que tous les autres. Tandis que les divers troupeaux d'autres femmes vont en sûreté, et sans être à peine regardés, aux promenades, à la Comédie, à l'opéra et dans les assemblées, et quoique pour la plupart au moins elles finissent par être dévorées tôt ou tard, elles peuvent, plus ou moins longtemps, folâtrer en liberté, sans trouble et sans obstacle. De toutes ces merveilleuses beautés, nul n'éprouva ce genre de persécution plus que la pauvre Sophie. Sa mauvaise étoile ne se contenta pas de tout ce qu'elle avait souffert à cause de Blifil, elle lui suscita un autre poursuivant, qui ne paraissait pas moins disposé que le précédent à la tourmenter. Car si sa tante était moins violente que son père, elle n'était pas moins assidue dans ses persécutions. Le dîner achevé et les domestiques retirés, Mrs. Weston, qui en avait déjà dit quelque chose à Sophie, l'informa qu'elle attendait Milord dans l'après-dîner, et qu'elle comptait saisir la première occasion de la laisser seule avec lui. « Si vous le faites, madame, répondit Sophie, avec un peu de vivacité, je saisirai la première occasion de le laisser seul avec lui-même. »« Comment, miss ? » s'écria sa tante. « Est-ce là la reconnaissance dont vous payez la bonté que j'ai eue de vous tirer de la prison où vous étiez chez votre père ?» « Vous savez, madame, dit Sophie, que la cause de cet emprisonnement était un refus d'obéir à mon père, qui me pressait d'accepter un homme que je détestais. Ma chère tante, qui m'a sauvé de ce malheur, voudra-t-elle me replonger dans un autre également fâcheux ?»« Et que croyez-vous donc, miss, qu'il n'y a pas de différence entre Milord Fellamara et M. Blifil ?»« Très peu, dans mon opinion. Et si je dois être condamné à épouser l'un des deux, je voudrais certainement avoir le mérite de me sacrifier au désir de mon père. Ainsi donc, mon désir, à ce que je vois, est de fort peu de conséquences pour vous. Mais cette considération ne me fera pas changer. J'agis par des motifs plus nobles. Agrandir ma famille, vous ennoblir vous-même, voilà mon plan. N'avez-vous donc aucun sentiment d'ambition? Ne trouvez-vous aucun charme dans la pensée d'avoir bientôt une couronne sur votre carrosse? Aucun sur mon honneur. Cette pelote de fil sur mon carrosse me plairait tout autant. Ne prononcez jamais le mot honneur. Il ne convient pas dans la bouche d'une misérable comme vous. Je suis fâché, ma nièce, que vous me forciez à me servir d'un mot comme celui-là. Mais je ne puis supporter votre caractère rampant. Vous n'avez rien en vous du sang des Weston. Au surplus, quelque bas, quelque abject que soient vos sentiments, vous ne dégraderez pas les miens. Je ne souffrirai pas qu'on dise de moi dans le monde que je vous ai engagé à refuser un des meilleurs mariages de toute l'Angleterre. Un mariage qui, outre ses avantages du côté de la fortune, ferait honneur à presque toutes les familles, et a, j'en conviens, sous le rapport des titres, l'avantage sur la nôtre. Je suis née bien imparfaite, apparemment, et il me manque plusieurs sens dont les autres sont doués. Il faut qu'il y en ait un surtout destiné, il me semble, à savourer les plaisirs bruyants ou ceux d'un vain éclat et que je ne possède pas. Car, assurément, les hommes ne se tourmenteraient pas tant, ne feraient pas tant de sacrifices pour acquérir, et ne seraient pas si orgueilleux de posséder ce qui, à l'extérieur, ne leur paraîtrait comme à moi que la plus insignifiante de toutes les bagatelles. Non, non, miss, vous êtes née avec tous les sens dont les autres sont doués, mais je vous assure que vous n'êtes pas née avec assez d'esprit pour faire de moi une sotte, ou pour me rendre ridicule aux yeux du monde. Je vous déclare donc ici sur ma parole, et vous savez, je crois, combien mes résolutions sont inébranlables, qu'à moins que vous ne consentiez à voir Milord cet après-dîner, je vous remettrai demain matin de mes propres mains entre celles de votre père. Je ne me mêlerai plus désormais de vous, et je ne vous reverrai jamais. » Sophie garda quelque temps le silence après ce discours, qui fut prononcé du ton le plus courroucé et le plus absolu. Puis, fondant en larmes, elle s'écria, « Faites de moi, madame, tout ce qu'il vous plaira. Je suis la plus misérable créature qui soit sur la terre. Si ma chère tante m'abandonne, où chercherai-je un protecteur ? Ma chère nièce, vous aurez dans Milord un très bon protecteur. Un protecteur que votre folle passion pour ce vil coquin de Jones peut seul vous faire refuser. En vérité, madame, vous me faites tort. Comment pouvez-vous imaginer, après la lettre que vous m'avez fait voir, que si j'ai jamais eu une pareille pensée, je ne la bannisse loin de moi pour toujours. Si cela peut vous satisfaire, je ferai serment de ne jamais le revoir. Mais, mon enfant, ma chère enfant, soyez raisonnable. Pouvez-vous trouver une seule objection ? Je vous ai déjà fait, je crois, une objection suffisante. Laquelle ? Je ne m'en rappelle aucune. Assurément, madame, je vous ai dit qu'il m'avait traité de la manière la plus vile et la plus grossière. En vérité, mon enfant, je ne vous ai pas entendu, ou je ne vous avais pas comprise. Mais qu'entendez-vous par cette manière vile et grossière ? En vérité, madame, je suis presque honteuse de vous le dire. Il m'a pris dans ses bras, m'a poussé sur une chaise longue, a osé porter sa main sur mon sein, et a appliqué ses lèvres avec tant de violence que j'en ai encore la marque sur le sein gauche. En vérité ? Oui, en vérité, madame. Mon père est arrivé heureusement en cet instant, sinon le ciel sait jusqu'où il avait le projet de pousser son insolence. Je suis aussi étonné que confondu. Aucune femme du nom de Weston n'a jamais été traitée ainsi, depuis que notre famille subsiste. J'aurais arraché les yeux à un prince s'il avait voulu prendre de semblables libertés avec moi. Cela est impossible. Assurément, Sophie, vous inventez cela pour exciter mon indignation contre lui. J'espère, madame, que vous avez trop bonne opinion de moi pour me croire capable de dire un mensonge. Sur mon âme, tout ce que je vous ai dit est vrai. Je l'aurais poignardé si j'avais été présente. Cependant, il ne pouvait avoir de dessein malhonnête. Cela n'est pas possible. Il n'aurait pas osé. D'ailleurs, ses propositions le prouvent, car elles ne sont pas seulement honorables, mais généreuses. Je ne sais, mais le siècle où nous sommes permet de trop grandes libertés. Une révérence à une honnête distance est tout ce que j'aurais accordé avant la cérémonie. J'ai eu autrefois des amants, il n'y a pas même si longtemps. J'en ai eu plusieurs, quoique je ne voulusse jamais consentir au mariage et que je n'encourageasse jamais la moindre liberté. C'est une sotte coutume et à laquelle je n'ai jamais voulu m'assujettir. Jamais homme n'a baisé que ma joue. C'est tout ce qu'on peut se permettre que de donner ses lèvres à baiser à un mari. Et quand j'aurais pu me laisser persuader de me marier, je crois en vérité qu'on ne m'aurait pas facilement amené à endurer cette licence. Vous m'excuserez, madame, si je vous fais une observation. Vous convenez que vous avez eu plusieurs amants, et tout le monde le sait, quand même vous le nieriez. Vous les avez tous refusés, et je suis convaincu qu'il y avait parmi eux, au moins, un homme titré. Vous dites vrai, ma chère Sophie, il m'a été une fois offert un titre. Pourquoi donc ne me laissez-vous pas refuser celui-ci ? Cela est vrai, mon enfant. J'ai refusé l'offre d'un titre. Mais ce n'était pas une offre si brillante. Je vous le répète, ce n'était pas une offre si brillante. Oui, madame, mais il vous a été fait de très belles propositions de la part de gens extrêmement riches. ce ne fut ni le premier, ni le second, ni le troisième mariage avantageux qui vous fut proposé. Je l'avoue. Eh bien, madame, ne puis-je pas espérer qu'il m'en sera proposé un second, peut-être plus avantageux que celui-ci ? Quoique vous ne soyez plus extrêmement jeune, je suis sûr que vous ne vous engageriez pas à couronner les vœux du premier amant qui vous offrirait une grande fortune, et même un titre. Je suis une très jeune personne, moi, et assurément je ne dois pas désespérer. Eh bien, ma chère Sophie, que voulez-vous que je vous dise ? Je vous demande uniquement de ne pas me laisser seule, au moins ce soir. Accordez-moi cela, et je me résigne, si vous le jugez convenable, après ce qui s'est passé, à le voir en votre présence. Fort bien, je vous accorde cela, Sophie. Vous savez que je vous aime et ne puis rien vous refuser. Vous connaissez la facilité de mon caractère. Je n'ai pas toujours été si facile. J'ai même passé autrefois pour cruel, aux yeux des hommes, s'entend. On m'appelait la cruelle Parthenisse. J'ai brisé plus d'une vitre où l'on avait écrit des vers à la cruelle Parthenisse. Sophie, je n'ai jamais été si jolie que vous. Et cependant, il n'y a pas encore longtemps que j'avais quelque chose de vous. Je suis un peu changé. Les royaumes et les empires, comme dit Cicéron dans ses épîtres, sont sujets à des changements. Il en doit être ainsi de la forme humaine. Elle continua pendant près d'une demi-heure à parler d'elle et de ses conquêtes et de sa cruauté, jusqu'à l'arrivée de Milord, qui, après la visite la plus ennuyeuse pendant laquelle Mrs. Weston ne quitta pas la chambre, se retira, tout aussi mécontent de la tante que de la nièce. Car Sophie avait mis sa tante de si bonne humeur qu'elle avait approuvé presque tout ce qu'elle avait dit, et était convenu qu'il fallait tenir à quelque distance un amant aussi entreprenant que celui-là. C'est ainsi que Sophie, par une petite flatterie bien dirigée, pour laquelle sans doute personne ne la blâmera, obtint un peu de repos et différa au moins le jour fatal. Maintenant que nous avons vu notre héroïne dans une situation plus douce qu'elle ne l'avait été depuis fort longtemps, nous allons un peu nous occuper de M. Jones, que nous avons laissé dans l'état le plus déplorable que l'on puisse imaginer. Chapitre 5. Mrs. Miller et M. Nightingale vont voir Jones dans sa prison. Quand M. Allworthy et son neveu sortirent pour aller dîner chez M. Weston, Mrs. Miller se rendit chez son gendre pour l'instruire de l'accident arrivé à son ami Jones. Mais il y avait longtemps que Partridge l'en avait instruit, car Jones, en sortant de chez Mrs. Miller, avait trouvé une chambre dans la même maison que M. Nightingale. L'excellente femme trouva sa fille dans une grande douleur au sujet de M. Jones. Après l'avoir consolée du mieux qu'elle put, elle se rendit à Gatehouse, où on lui avait dit qu'il était, et où M. Nightingale était arrivé avant elle. La fermeté et la constance d'un véritable ami versent un baume si délicieux dans les plaies de l'âme que les peines du malheureux, si elles ne sont que temporaires et de nature à être adoucies, sont plus que compensées par cette puissante consolation. Les exemples en ce genre ne sont pas si rares que l'ont affirmé quelques observateurs aussi légers que superficiels. À dire le vrai, le manque de pitié ne doit pas être mis au nombre de nos défauts les plus communs. Le noir poison qui souille notre âme est l'envie. C'est elle, je le crains bien, qui fait que nous levons les yeux rarement, sans une petite pointe de malignité, sur ceux qui sont manifestement plus grands, meilleurs, plus sages ou plus heureux que nous, tandis que nous les baissons communément avec bienveillance et commisération sur le pauvre et sur le malheureux. J'ai remarqué que la plupart des défauts que j'ai observés dans les liaisons dont j'ai été témoin ne provenaient que de l'envie, vice diabolique, et dont cependant je n'ai connu que peu de personnes entièrement exemptes. Mais en voilà assez sur ce sujet, qui, si je le continuais, me mènerait trop loin. Soit que la fortune ne voulût pas que Jones ne succombât sous le poids de son adversité, et craignît de perdre ainsi l'occasion de le tourmenter à l'avenir, soit qu'elle se relâchât réellement un peu de sa sévérité envers lui, elle parut un peu adoucir sa persécution, en lui envoyant la compagnie de deux amis si fidèles, et ce qui est peut-être plus rare, d'un fidèle serviteur, car bien que Partridge eût beaucoup de défauts, il ne manquait pas d'attachement. et quoique la crainte ne lui eût pas permis de s'exposer à se faire pendre pour son maître, je crois que pour tout l'or du monde, on ne lui aurait pas fait abandonner sa cause. Tandis que Jones témoignait sa vive satisfaction de la présence de ses amis, Partridge vint lui annoncer que M. Fitzpatrick était encore vivant, quoique le chirurgien déclara qu'il y avait très peu d'espérance. En entendant cette nouvelle, Jones poussa un profond soupir. « Mon cher Tom, lui dit Nightingale, pourquoi vous affligeriez-vous d'un accident qui, quelles qu'en soient les suites, ne peut entraîner aucun danger pour vous et que votre conscience ne peut vous reprocher le moins du monde. Si le misérable meurt, qu'avez-vous fait de plus que d'avoir ôté la vie à un scélérat en vous défendant? Croyez que c'est ainsi que le jury en décidera, et alors vous serez admis sans peine à donner caution. Je sais que vous aurez le désagrément de subir les formes d'un procès, mais c'est un procès auquel bien des gens se soumettraient à votre place pour un shilling. Allons, allons, monsieur Jones, dit Mrs. Miller. « Prenez courage. Je sais bien que vous ne pouviez avoir été l'agresseur. C'est ce que j'ai dit à M. Allworthy, et il faudra qu'il en soit persuadé lui-même avant que je le laisse tranquille. » Jones répondit gravement que, quel que pût être son sort, il gémirait toute sa vie d'avoir versé le sang d'un de ses semblables comme d'un des plus grands malheurs qui pût lui être arrivé. « Mais j'éprouve un autre malheur qui frappe mon cœur dans sa partie la plus sensible. » « J'entends, dit Mrs. Miller. Il s'agit de votre maîtresse. Allons, allons. J'en sais plus que vous n'imaginiez. » Le bavard Partridge lui avait tout dit, en effet. « Et j'en ai plus appris que vous n'en savez vous-même. Les choses vont mieux, je vous assure, que vous ne pensez. Et je ne donnerai pas 6 sols de toutes les prétentions de Blifil sur la jeune personne. « Je vous assure, ma chère amie, répondit Jones, je vous assure que vous ne connaissez aucunement la cause de mon chagrin. Si vous étiez instruite de tout, vous conviendriez avec moi que mon malheur n'admet pas de consolation. Je ne crains rien de Blifil. C'est moi qui me suis perdu moi-même. » « Ne vous désespérez pas, reprit Mrs. Miller. Vous ne savez pas ce que peut une femme. Et s'il y a quelque chose en mon pouvoir, je vous promets de le faire pour vous servir. C'est mon devoir. Mon fils, mon cher monsieur Nightingale, qui a la bonté de me dire qu'il vous a les mêmes obligations que moi, sait que c'est mon devoir. Faut-il que j'aille trouver moi-même la jeune personne? Je lui dirai tout ce que vous voudrez que je lui dise. » « Oh, la plus excellente femme !» s'écria Jones en lui serrant les mains. « Ne parlez pas de vos obligations envers moi. Mais puisque vous avez été assez bonne pour me le proposer, il y aurait un service qu'il serait peut-être en votre pouvoir de me rendre. Je crois que vous connaissez, je ne sais comment vous y êtes parvenu, la personne qui est si chère à mon cœur. Si vous pouviez trouver les moyens de lui remettre ceci, tirant un papier de sa poche, je serai à jamais reconnaissant de votre bonté. Donnez-le-moi, dit Mrs. Miller. Si je ne le vois pas de mes propres yeux entre ses mains avant de me mettre au lit, que mon premier sommeil soit le dernier de ma vie. Consolez-vous, bon jeune homme. Soyez assez sage pour profiter de vos fautes passées. Je vous garantis que tout ira bien, et que je vous verrai encore heureux avec la jeune personne la plus charmante qu'il y ait au monde, car c'est ainsi que je l'entends nommer partout. « Croyez-moi, madame, dit Jones, je ne parle pas ici le jargon commun à ceux qui se trouvent dans ma malheureuse situation. Avant que cet horrible accident arrivât, j'avais résolu d'abandonner un genre de vie dont j'avais reconnu la perversité et la folie. Je vous assure que malgré le trouble que j'ai malheureusement occasionné dans votre maison, et dont je vous demande pardon de tout mon cœur, je ne suis point un libertin déterminé. Quoique j'aie été entraîné dans le vice, je n'ai point un caractère vicieux, et, à dater d'aujourd'hui, je ferai tout pour me rendre estimable. » Mrs. Miller témoigna combien elle était satisfaite de cette déclaration, dans la sincérité de laquelle elle avoua qu'elle avait une confiance entière. Le reste de la conversation se passa de la part de cette excellente femme et de M. Nightingale à réunir leurs efforts pour ranimer les esprits abattus de M. Jones, ce en quoi ils réussirent assez bien pour le laisser beaucoup plus tranquille et plus content qu'il ne l'avait trouvé. Mais rien ne contribua plus à cet heureux changement que l'obligeant engagement pris par Mrs. Miller de remettre à Sophie cette lettre qu'il désespérait de trouver aucun moyen de lui faire parvenir. Car lorsque Black George remit la dernière de Sophie à Partridge, il l'informa qu'elle lui avait expressément défendu de lui rapporter aucune réponse, sous peine d'en parler à son père. Il était d'ailleurs charmé de voir qu'il avait auprès de M. Allworthy un avocat aussi chaud dans cette excellente femme, qui, à la vérité, était une des plus dignes créatures qui fût au monde. Mrs. Miller, après une visite d'environ une heure, et Nightingale, qui était arrivée assez longtemps avant elle, prirent tous deux congé en promettant de revenir bientôt. Mrs. Miller lui dit qu'elle espérait lui apporter quelques bonnes nouvelles de sa maîtresse, et M. Nightingale promit de s'informer de l'état de la blessure de M. Fitzpatrick et de tâcher de découvrir quelques-uns de ceux qui avaient été présents à leur rencontre. Mrs. Miller alla donc sur le champ à la maison de Sophie, et nous allons l'y accompagner.